Radio Kati, Grand Témoin. Baudouin Bomandeke Bonika, homme d'État, docteur en sciences politiques et professeur d'université, est celui que Grand Témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Avec vous dans cette émission ou dans cet entretien, nous allons vous faire découvrir auprès de tous les auditeurs qui nous suivent sur Radio Okapi. Nous allons parler de vous, de votre vie, de votre parcours politique, parce que vous avez exercé plusieurs fonctions politiques dans ce pays pendant la Deuxième République. Nous parlerons aussi de vos publications, parce que vous avez publié des ouvrages sur le Parlement congolais. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons d'abord par découvrir l'homme qui est Baudouin Bomandeke Bonika. C'est-à-dire, vous êtes né où et quand?
Ben, je suis né à Mbandaka dans les années 41. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Stanleyville, chez les frères Maris.
Stanleyville actuel
Kisangani. Exact. Après mes études secondaires, je suis venu à l'Institut supérieur d'études sociales, où on formait les assistants sociaux au niveau graduat, niveau A1.
À Kinshasa, à Léopoldville, à l'époque?
À Léopoldville, Djelombinza, où il y a l'IPEN maintenant. Et après les études sociales, je suis allé faire l'université à l'ULB. ULB, c'est-à-dire l'Université libre de Bruxelles, où j'ai eu ma licence en sciences politiques et diplomatiques. On appelle aujourd'hui licence en relations internationales. Et après mes études universitaires, bien sûr, je suis revenu au pays, j'ai commencé ma carrière dans la diplomatie.
Ok, donc, on va.
Sur le plan scientifique, j'ai fait au-delà de la licence, j'ai fait un DS en sciences politiques à l'UNIKIN et puis un doctorat également en sciences politiques à l'UNIKIN.
Vous aimez beaucoup la politique?
J'aimais beaucoup plus la diplomatie, l'enseignement, parce que j'ai fait des humanités pédagogiques. Mon père était un diplômé aussi de l'école normale pédagogique. J'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup la recherche scientifique, etc. Mais je me suis retrouvé dans la politique, je vais vous raconter ça un peu plus tard, un peu par hasard. Mais je voulais bien faire une carrière diplomatique.
Vous avez grandi dans quelles conditions, professeur Bomandeke?
De bonnes conditions. Hein. Mon père était ce qu'on appelait à l'époque immatriculé, c'est-à-dire les évolués, ce qu'on appelait les évolués, les Congolais qui avaient fait de bonnes études dans l'époque et qui étaient commis de l'État et qui se comportaient selon la culture occidentale. Eh bien, ils obtenaient ce qu'on appelait à l'époque la carte de mérite civique et puis l'immatriculation. C'est-à-dire qu'ils étaient assimilés aux Blancs. J'ai grandi dans des conditions relativement bonnes.
Un peu comparable à celle des Blancs.
Un peu. C'était pas tout à fait blanc, pas tout à fait indigène, comme on l'appelait à l'époque, mais juste milieu.
C'est quoi le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance?
Eh bien, d'abord, les frères Maristes, ce sont des braves, ils nous ont très bien formés. Les moniteurs, à l'époque, recevaient de très bonnes, de solides formations d'enseignants, de pédagogues. Et ils nous ont très bien dressés. La culture générale, en plus de le français, les mathématiques, eh bien, la calligraphie, le dessin, la musique. Nous avons pris le solfège en quatrième primaire. L'élocution, ça, une solide formation à l'école primaire déjà. Mais quand on terminait l'école primaire à l'époque, on savait écrire français correctement. Moi, en tant que professeur d'université, je me plains toujours de voir mes étudiants écrire français boiteux à ce niveau-là. J'admirais beaucoup mes papas. Par exemple, Lumumba, il était voisin à mon père. C'était un homme qui se distinguait déjà à l'époque, avant qu'il ait fait vraiment la grande politique. Ben, nous étions tout petits, on l'admirait. Vu sa prestance, son élévation, sa volonté de se former, mon père a dû, par exemple, intervenir plus d'une fois entre maman Pauline et papa Patrice, parce que quand il recevait son salaire, ben, une bonne partie était consommée par les achats des livres. Ça, dans son salon, c'était plein de livres.
Vous aviez, des parentés?
Non, c'est des voisins. Des voisins, et les Africains, vous savez comment ils sont, hein, des voisins, les gens qui vivent ensemble, ben, ça forme un peu
une
certaine famille.
Professeur Bomandeke, vous êtes professeur d'université aujourd'hui. Si je vous demandais de faire une petite comparaison entre l'enseignement à votre époque et l'enseignement actuel en RDC, qu'est-ce que vous me disiez?
Oui, ça a beaucoup dégradé. Ça a beaucoup dégradé, c'est sensible, c'est à l'œil nu. Hein, et nous devons faire beaucoup d'efforts pour que l'enseignement en général au Congo et l'université en particulier puisse remonter un tout petit peu.
Et à votre avis, cela est dû à quoi, cette baisse du niveau d'enseignement en RDC?
Bien, la politique d'enseignement, la politique scolaire des différents gouvernements, bon, ça ne s'est pas adapté à l'évolution démographique, etc. Mais également la pauvreté, hein, l'État congolais s'appauvrit de plus en plus et le budget consacré à l'enseignement baisse sensiblement. Et vous avez à l'université, par exemple, de Kinshasa, eh bien, à la belle époque, il y avait un budget qui se chiffrait à des millions de dollars. Aujourd'hui, le budget ne représente pas grand-chose. Okay. Ce qui fait qu'il n'y a plus de construction, les infrastructures, il n'y a plus d'équipement, il y a le personnel tant scientifique qu'administratif sous-rémunéré. Tout ça baisse absolument le niveau de notre enseignement.
Alors, il faut toujours dans l'enseignement, le gouvernement congolais a décrété cette année la gratuité de l'enseignement primaire. À votre époque aussi, c'était gratuit l'enseignement primaire?
Oui, quand nous avons fait l'enseignement primaire et secondaire, c'était gratuit. Et l'enseignement supérieur, ben, on était boursier. Et donc, c'est une autre forme de gratuité. Mais bien sûr, la bourse, en principe, doit être remboursée. Mais je ne pense pas qu'il y ait un seul Congolais qui ait pu rembourser la bourse que nous avons reçue. Et surtout, nous qui avons étudié en Belgique, bon, c'était la bourse du gouvernement belge qui se donnait dans le cadre de la coopération. Donc,
Et vous pensez que cette politique peut marcher actuellement ici au Congo?
Oui, si le gouvernement fait un effort côté budgétaire. Hein. Et ça, là-dedans, dans la classe politique, je pense qu'il y a tout un débat. Le budget actuel de la République ne correspond pas tout à fait à ce qu'il devrait être. Et ça, 60% dans tous les pays, vous avez au moins 50% des citoyens qui payent l'impôt. Et nous constatons ici qu'il y a les Congolais, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, l'impôt ne connaît pas. Et ça, donc, la contribution fiscale doit être populaire. Il faut que la contribution réelle puisse frapper tous les citoyens adultes, valides, et les entreprises à tous les niveaux.
Professeur Bomandeke, est-il marié?
Oui.
Il y a des combien d'enfants?
5 enfants.
Radio Kati, grand témoin.
L'invité des grands témoins aujourd'hui est le professeur Baudouin Bomandeke Bouneka. Il est homme d'État, docteur en sciences politiques et professeur d'université. Professeur, parlons de votre vie politique. C'est quand que vous commencez la politique?
Bien, après mes études, comme j'avais fait les études diplomatiques, j'étais engagé aux affaires étrangères via la fonction publique. J'ai évolué dans la diplomatie jusqu'à devenir directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Alors, et à l'époque, c'était la politique du régime de la Deuxième République qui s'est caractérisée par une politique d'indépendance et d'influence. Dépendance vis-à-vis des blocs, les grands blocs hégémoniques de l'époque, en pleine guerre froide. Et à ce propos, nous avons fait plusieurs missions dans les pays de l'Est. Le régime a évolué à grands pas vers les pays de l'Est, les pays socialistes, n'est-ce pas, par opposition au régime qui a précédé, qui s'était engagé dans une politique exclusive, de coopération exclusive avec l'Occident. Et ça, le nouveau régime s'est orienté vers l'Est. Nous avons fait plusieurs voyages, notamment en Yougoslavie, Roumanie, l'Asie socialiste.
Dans le cadre de la coopération.
Dans le cadre de la nouvelle politique d'indépendance vis-à-vis des deux grands blocs. Alors, sur la politique d'influence, c'était particulièrement en Afrique. On s'est engagé l'unité africaine, dans la libération de l'Afrique. C'est ainsi qu'on avait organisé ici le sommet de l'OUA en 67. Nous étions les principaux acteurs. Nous avons participé activement à la libération des mouvements des différents pays qui étaient encore sous colonisation à l'époque. Je me souviens, nous étions membres du comité de coordination pour la libération de l'Afrique. Et j'étais justement qui représentais le pays. On a donné beaucoup de matériel, que ce soit matériel militaire, matériel civil, le financement.
C'est un comité mis en place par qui?
Par l'OUA. Maintenant, on l'appelle l'Union africaine. C'était une structure de l'OUA qui siégeait en Tanzanie. Également, le ministère avait dans ses attributions le commerce extérieur. Nous avions organisé la FIKIN. La FIKIN ici, c'était un peu l'œuvre de notre époque. J'ai eu deux notes qui m'avaient marqué un peu. C'était l'affaire Moulélé et la permutation qu'il y a eu entre le ministre et l'ambassadeur. Et Mobutu aimait bien cogner les têtes un peu à ses collaborateurs. Le ministre s'est retrouvé à l'ambassade, à Washington. L'ambassadeur de Washington est venu ministre.
C'était qui le ministre?
Le ministre c'était Bomboko, l'ambassadeur c'était Adoula, et alors on les a permutés. Adoula et Bomboko, qui sont tous issus un peu des socialistes belges, qui normalement devaient avoir les mêmes idées, et tout ça, et bien, le courant ne passait pas très bien entre eux. Je crois que ça doit être un problème de leadership. Et quand Adoula est arrivé, directement, comme moi j'étais directeur de cabinet adjoint, j'étais de la même tribu que.
Bomboko.
Eh bien, directement, un jour, en plein midi, il m'écrit une lettre, monsieur, même pas monsieur le directeur de cabinet, tout ça, non, monsieur, à dater de ce jour, vous êtes mis à la disposition de la fonction publique.
C'était un coup dur.
Très dur. Je venais de me marier, je venais de perdre mon père, tout ça. Alors, je suis allé à la fonction publique a dit, non, nous, on ignore cette lettre-là. Vous étiez détaché au cabinet, on devait vous remettre à l'administration, et qu'on ouvre une action disciplinaire et qu'on conclue avec une sanction. Pas comme ça, sans raison, il n'y a rien, à la fonction publique, non, nous on ne vous connaît pas ici, rentrez là-bas. Alors c'est ainsi que j'ai navigué entre les deux ministères, et les élections de septembre sont arrivées, la clientèle de mon père est venue me voir, parce que mon père était sénateur MNC Lumumba. C'était un homme politique, tout premier sénateur de 60, c'était un grand ami personnel à Lumumba. Il avait une clientèle électorale et elle est venue me solliciter. C'est ainsi que je suis entré dans le Parlement et j'ai commencé la politique active.
En 70.
70.
J'ai été élu député.
Député.
Après la députation, on vous a retrouvé dans différents ministères.
Oui, j'ai évolué pendant 19 ans au Parlement. J'ai fait une carrière. J'ai fait 4 législatures sur 5. Mais j'ai gravi tous les échelons. D'abord, rapporteur de la sous-commission des affaires étrangères, président de la sous-commission, président du groupe congolais ou zaïrois de l'Union interparlementaire. Je suis entré au bureau comme 4e secrétaire parlementaire. Le secrétaire parlementaire, ça correspond au rapporteur aujourd'hui. 4e secrétaire parlementaire, 1er secrétaire parlementaire, vice-président de l'Assemblée nationale. J'étais un des présidents de l'Assemblée nationale. Alors, au Parlement, je me suis beaucoup adonné à la diplomatie parlementaire. Étant donné mes origines, j'ai beaucoup contribué à faire adhérer notre Parlement aux organismes internationaux parlementaires.
Lesquels par exemple?
L'Union interparlementaire, l'Association internationale des parlementaires de langue française, l'Association ACP, Afrique-Caraïbe-Pacifique Union Européenne, à l'époque on appelait CEE, Communauté Économique Européenne, Union des Parlements Africains, Union des Parlementaires pour l'Environnement, il y en avait 5, mais j'ai fait adhérer notre Parlement à ces organismes. J'ai de favoriser le plus possible des accords bilatéraux avec les parlements étrangers, dans ce qu'on appelle dans le jargon parlementaire des groupes d'amitié, Congo, Belgique, Congo, Japon, Congo, Argentine, etc. Et surtout, j'ai poussé à ce que le chef de l'État ne puisse plus ratifier les traités sans qu'ils aient été d'abord approuvés par le Parlement.
Par le Parlement.
Ouais. Parce que la procédure en diplomatie, c'est que le gouvernement négocie, le Parlement approuve et le chef de l'État ratifie.
Ratifie.
Alors, cette troisième, la deuxième étape-là, ben, on sautait souvent. Nous avons
passé du gouvernement à la présidence.
La présidence directement. Ça, nous avons vraiment fait pression. Il y a une résolution du Parlement et puis nous avons manœuvré avec nos amis des autres pays, parlementaires belges, français, américains, etc., etc., pour qu'on fasse pression au chef de l'époque, pour que les choses se passent ainsi. Mais au Parlement, j'étais marqué par une loi, c'est le Code de la famille. Le Code de la famille, nous avions senti au début, avec mon ami Gustave Moulenda, qui est décédé malheureusement, on a senti que le Code civil était inadapté, un peu éparpillé. Alors il fallait se réformer et unifier. Alors nous avions vu l'ancien président de l'époque, Bobolico, nous l'avons convaincu et on a mis en place une commission de réforme du droit civil congolais qui a travaillé pendant 10 ans, qui a sillonné tout le Congo profond et qui a présenté une proposition de loi qu'on appelle aujourd'hui le Code de la famille, qui a été élaboré pendant 2 législatures. Ça, c'est la plus grande loi qui m'a vraiment marqué pendant mon
long. C'est la même cause que nous utilisons jusqu'à ce jour.
C'est celui-là.
Et qui sera peut-être révisé parce qu'il y a un projet de loi pour reviser ce Code de la famille.
Oui, dans certaines dispositions, c'est normal, la société
évolue oui.
Les dynamiques, il faut des adaptations.
Il y avait combien de parlementaires à votre époque, des députés?
Bien, on est allé de 420 à 210. À chaque loi électorale, on modifiait la composition du Parlement. Le tout premier, c'était 420, et puis 310, et puis 270, et puis finalement, on est arrivé à 210.
Aujourd'hui, nous sommes à environ 500
députés. 500 députés et à une centaine de sénateurs.
Vous avez été député dans ce pays. Aujourd'hui, vous êtes professeur d'université. Comment vous jugez le travail du Parlement congolais actuellement, professeur?
Je pense qu'il y a une évolution. Parce que le premier Parlement avait voté 12 lois en 3 ans. 12 lois seulement. Et il avait un peu contrôlé. Le contrôle était quand même plus ou moins appréciable. Le deuxième Parlement, qui a fonctionné pendant un an et demi, il n'a voté que 2 lois. Le troisième où j'ai été, bon, pendant 20 ans, on a voté à peu près 216 lois. Les parlements de transition, HRPT a voté 9 lois. Celui de la CLPT à Lubumbashi a voté une dizaine de lois, je crois. Et l'actuel, après 3-4 ans, ils ont voté à peu près 42 lois. C'est une bonne performance. Du côté contrôle, eh bien, ils ont posé des actes de contrôle sur le gouvernement. J'ai entendu que le gouvernement a organisé un séminaire pour examiner un peu l'ensemble de toutes ces recommandations, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Alors quand je cause avec les amis parlementaires, ils sont un peu frustrés. Et je crains fort que certaines de ces recommandations puissent être transformées en interpellations. Et ça sera tant mieux.
Alors, professeur, vous avez écrit des ouvrages sur les parlements congolais.
Oui.
C'était à quelle époque? Est-ce quand vous étiez député ou quand vous avez quitté le Parlement?
Pendant que j'étais là, je brillais d'ailleurs, quand j'étais à l'Université libre de Bruxelles, je brillais dans le cours de l'histoire parlementaire belge. Alors, le professeur Jean Stengers, comme j'avais distingué, m'avait demandé de faire l'assistanat, de continuer à évoluer dans le domaine scientifique. Mais comme mon père avait des problèmes de santé et tout ça, bon, j'ai dû y revenir. Mais j'ai gardé toujours un pied du côté de l'ULB, de la science, de la recherche, etc. Et c'est lui qui m'a inspiré. Je suis allé le voir une fois quand j'étais parlementaire. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas au Congo? Je dis, bon, je suis député. Il dit, mais alors, puisque tu aimais bien l'histoire parlementaire belge, essaye d'écrire l'histoire parlementaire congolaise. Et je suis là pour vous encadrer, pour vous accompagner. Alors, l'idée m'est venue de faire des recherches, et j'ai commencé à écrire, j'ai fait des publications dans des revues, les articles dans les revues scientifiques, et puis, quand j'étais ministre en 92, le travail était déjà très accompli, et puis ministre, j'avais un peu de moyens, mais j'ai publié le premier ouvrage.
C'est un ouvrage qui parle du fonctionnement du Parlement congolais?
Oui, comment le Parlement, le premier Parlement a été composé, comment il a été organisé, et comment il a exercé ses pouvoirs. Alors, dans le cadre du DS, j'ai écrit le deuxième parlement, comment il a fonctionné, comment il a exercé son pouvoir. Et quand j'ai fait la thèse de doctorat, j'ai parlé du troisième parlement. Donc j'étudie l'histoire parlementaire par étapes, en fonction des différentes constitutions.
Une étude comparative?
Il y a les deux. Il y a la description, l'analyse et l'examen du fonctionnement de chacun de ces parlements, et il y a des chapitres réservés à la comparaison.
Parlons maintenant des postes ministériels que vous avez eu à assumer dans ce pays. C'est par où que vous avez commencé? Par quel ministère?
J'ai commencé à l'exécutif. J'avais commencé d'abord comme administrateur de sociétés d'État, l'ONATRA, la SONAS, puis la CNCI, où nous avons fait beaucoup d'interventions, notamment la CNCI, le logement social. Je regretterai toujours que la CNCI n'ait pas pu continuer à construire des logements sociaux pour le peuple. Et on ne s'était pas entendu au niveau de la classe politique. Bon, certains ministres qui comprenaient rien dans la construction sociale, bon, vite fait de supprimer ça, c'était budgétivore, etc. Et c'est regrettable. Alors, comme membre du gouvernement, je suis entré comme secrétaire d'État au transport. J'ai beaucoup d'initiatives à l'époque. Sur le plan routier, par exemple, j'ai mis en place, et à constater qu'il y avait trop d'accidents de route, j'ai mis en place la commission nationale de prévention routière, qui fonctionne jusqu'à présent.
Oui.
En ce qui concerne l'aviation, j'ai mis en place le Conseil supérieur d'aviation civile. J'ai créé à l'administration la direction de l'aéronautique civile. En ce qui concerne le transport maritime et fluvial, j'ai créé l'OGEFREM. Vous entendez parler de l'OGEFREM aujourd'hui, ben c'est mon œuvre, c'est moi le parrain. Et j'ai mis également un conseil supérieur de navigation pour éviter qu'il y ait trop d'accidents, comme maintenant.
Et après le transport, vous êtes passé à quel ministère?
Eh bien, après le transport, j'étais gouverneur.
Dans la province du Kasaï
occidental, pendant 4 ans. Alors, j'étais parmi les gouverneurs qui avaient été nommés pour appliquer la politique de décentralisation en 88. Décentralisation et découpage. Alors, vous savez, la petite histoire, c'est que le colonisateur, lui, avait créé les provinces en 1914, il y en avait 4. Et 20 ans après, il a découpé en 6, en 1933, avec l'idée que les districts deviennent des provinces un quart de siècle plus tard. Alors, le quart de siècle, quand il est arrivé, eh bien, c'était l'indépendance, le colonisateur n'a pas pu réaliser son projet. Et c'était le gouvernement Adoula qui s'est mis à découper les provinces conformément aux districts. Nous sommes arrivés à 21, c'était une province. L'expérience a tourné court parce que 2 ans après, l'armée a pris le pouvoir et avec son réflexe centralisateur, il a recentralisé les provinces tout en découpant 2 des 6 provinces coloniales. La province du Kasaï a été découpée, la province de Leopoldville. Donc on est passé de 6 avec l'escale de 21 là, 21, et puis on est monté à 9. C'était en 66. Alors en 86, 20 ans après, le congrès, le parti État de l'époque, organise un congrès et les membres qui sont venus de la base ont fait pression pour dire qu'il y avait blocage, il y avait immobilisme, parce que la centralisation était trop forte. Il fallait décentraliser. Et il disait, j'étais dans ce congrès-là, les gens qui vous viennent de Kisangani, par exemple, ils vous disent, si vous décentralisez à Kinshasa, pour aller recentraliser à Kisangani, vous n'atteignez pas le même résultat. Kisangani est à 2000 km de Mahagi, alors ça ne sert à rien. Il faut découper. Alors la pression était très forte, le président de l'époque, malgré sa tendance autoritaire, était obligé de céder et de décider qu'on fasse une expérience au Kivu. Ça, c'est ainsi qu'on a découpé le kivu. On devait voir un peu pendant 5 ans qu'est-ce que ça donnerait pour qu'on puisse généraliser. Et ça faisait en 86. Alors, en 88, on nomme une équipe de gouverneurs pour aller décentraliser, faire réussir le découpage. Alors, j'étais dans cette équipe-là. Alors, au Kassai occidental, j'ai essayé d'assurer la décentralisation, mais elle est restée politique. J'ai organisé des assemblées provinciales, communales, etc., etc. Mais la décentralisation financière n'a pas suivi. Ça ne sert à rien de décentraliser si les moyens ne suivent pas. Et j'ai eu beaucoup de démêlés avec le pouvoir central à ce sujet. Le pouvoir central, nos amis du gouvernement central, ils n'avaient pas l'esprit décentralisé. La décentralisation, c'est un état d'esprit aussi. Quand il y a eu la territoriale, on a changé de système. Nous étions dans la territoriale des non-originaires. Maintenant, on est revenu à la territoriale des originaires. Ça, donc, je devais absolument quitter
la province.
Et j'étais nommé secrétaire d'État à l'intérieur, chargé de la décentralisation. Malheureusement, j'ai pas fait longtemps. Ça fait longtemps comme secrétaire d'État à l'intérieur, j'étais nommé ministre des PTT. Nous sommes partis un peu en catimini parce que la conférence nationale venait de voter le président Tshisekedi, ministre, le premier ministre. Et directement, nous avons fait la remise de prise d'une manière assez compliquée. J'en suis parti.
Chers entreprises, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre entretien. En dehors de vos moments de service, quand vous n'êtes pas à l'université, quand vous n'êtes pas dans les copies des étudiants, comment vous passez votre temps?
Eh bien, comme je suis un passionné de la recherche, bon, je lis énormément. Et si je sens la tête chauffer un peu, je suis guitariste, j'étais musicien. En outre, je vous disais, à l'école des frères maristes, nous avions une solide formation de culture générale. J'étais très fort en musique. Nous avions une fanfare. Je jouais plusieurs instruments, mais j'ai oublié un peu tous les instruments, le saxo, baryton, etc. Maintenant, je joue seulement la guitare. Eh bien, quand je sens la tête chauffer un peu, ben, je prends ma guitare.
À la guitare.
Oui, dans mon jardin, l'air frais qui m'entoure, qui m'environne, eh bien, ça me détend. Alors, de temps en temps, je sors avec les amis, se remuer un peu, prendre un petit verre de temps en temps.
Vous aimez la musique?
J'aime la musique.
C'est quel genre de musique que vous aimez bien écouter très souvent?
Eh bien, je suis un peu polyvalent. Je suis un vrai musicien, un vrai, quelqu'un qui a le don de la musique. J'adore toutes les musiques. J'aime que ce soit la musique militaire, que ce soit la musique folklorique, que ce soit la musique mondaine, populaire, de danse, Francois Cabacele, Werason, Libé, tout ça. Dès qu'il y a la bonne musique.
Donc vous vous retrouvez dans toutes les générations.
Oui, tout à fait. Moi, c'est la musique. Je sors vraiment de.
Vous avez une oreille musicale. Quand c'est bon, vous aimez.
Tout à fait. Tout à fait. Et bien sûr, la musique classique. Ça a une préférence un peu, hein, quand je suis avec Beethoven, Mozart et tout ça, et Schubert, vraiment, je suis emporté, bien sûr. Mais en général, toute la musique, dès qu'elle est jolie, elle est mélodieuse, les paroles sont bien, bon, bien pensées, ça m'enchante.
Voilà, Baudouin Momandeke, vous êtes dans l'enseignement aujourd'hui, vous êtes un homme d'État, vous avez fait la politique. Est-ce que vous avez encore des ambitions politiques?
Si je suis, beaucoup de gens me considèrent comme un grand parlementaire. Si mes cadets estiment que nous avons un grand parlementaire, nous voulons bien le coupter sénateur, lui confier, je sais pas moi, telle ou telle responsabilité qui nécessite beaucoup plus de la sagesse. risque de la compétitivité politique. Bon, je suis tout à fait prêt à servir l'État.
Mais vous-même,
Moi-même, je n'ai pas l'ambition de me battre, de me lancer dans la compétitivité, dans la bataille au marché politique congolais.
Professeur, nous sommes à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin.
Je suis content que l'OCAPI ait organisé cette séance pour permettre à ce que je puisse communiquer avec vos auditeurs. Et je souhaite que ça ne sera pas la dernière fois.
On vous recevra peut-être prochainement dans une autre émission sur Radio OCAPI.
Vraiment, c'est tout mon souhait.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission Grand Témoin. Vous avez été présenté par Kélin Koutré, Jean-Noël Mokondoté à la technique. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocati.net. Je vous laisse en compagnie de Nico Kalambay pour la suite de notre programme du week-end.